Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Dans notre dernière conversation, nous avons parlé de relations entre Jésus et Israël, et donc plus largement entre, pour nous, christianisme et Israël. Dans les paragraphes qui suivent, dans les sections qui suivent, le catéchisme nous fait aborder Jésus et la loi, et puis Jésus et le temple. Peut-être qu'y a-t-il d'ailleurs entre les deux beaucoup plus de liens qu'on pourrait le croire en lisant le catéchisme, en disant c'est deux sections bien, bien distinctes, dans la mesure où la loi est importante pour les juifs. Elle est importante pour Jésus qui est bien né juif. D'ailleurs, le catéchisme dit Jésus, le Messie d'Israël, le plus grand donc dans le royaume des cieux, se devait d'accomplir la loi en l'exécutant dans son intégralité, jusque dans ses moindres préceptes, selon ses propres paroles. Il est même le seul, dit le catéchisme, à avoir pu le faire parfaitement. Les juifs, de leur propre aveu, n'ont jamais pu accomplir la loi dans son intégralité sans en violer le moindre précepte. En tout cas, Jésus va bien dire « je ne suis pas venu abolir la loi ». Mais le lien avec le temple est peut-être... se fait peut-être en ceci que le temple fait partie assez largement, me semble-t-il, de ce que la loi va tenir. Beaucoup de ce qui fait la loi nous porte à des règles qui se jouent dans le temple, dans la célébration même de la liturgie, dans la relation au temple, n'est-ce pas ?
Oui, les Juifs étaient tenus en Israël à faire régulièrement les pèlerinages. Trois fois par an, les pèlerinages saisonniers pour la fête de Pâques, pour la fête aussi de Pentecôte, Shavuot, comme on l'appelle, des semaines, parce qu'il y avait toutes les 50 jours qui suivaient Pâques, et il y avait les 7 fois 7, 49 jours, donc 7 semaines qu'il fallait... vivre après Pâques dans cet esprit de Pessah, Pâques, et pour la fête de Shavuot, il y avait encore une convocation d'un pèlerinage à Jérusalem, et enfin, en octobre, la fête de Soukhot, la fête des tentes, qui rappelait la vie au désert et la précarité du peuple juif avant d'arriver sur la terre promise, et le don de la loi. Et donc ces trois fêtes étaient importantes et réclamaient pour les juifs de venir faire des offrandes dans le temple, que nul n'arrive les mains vides au temple, était-il dit dans l'écriture. Et donc il y avait cette régularité des fêtes de pèlerinage pour honorer le Dieu trois fois saint, honorer le Dieu dans la libération, Pessah, dans le don de la loi, Shavuot, et le don de la terre sainte qui, à Soukhot, était rappelée à partir de la faiblesse de l'homme, où on rappelait que Dieu avait pourvu sans que ce soit une volonté purement humaine. C'était un cadeau de la grâce. Et c'était important, régulièrement, de faire rappel de ces grandes fêtes. Et Jésus, dans son jeune âge et dans sa vie publique, a certainement organisé son temps autour de ces grandes fêtes. Et il en a donné une nouvelle signification à travers cette idée qu'il était venu non pas pour... abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est-à-dire, quel était le sens profond, dans le fond, de la Pâque, quel était le sens profond de Pentecôte, et quel était le sens profond de cette inhabitation de Dieu parmi les hommes. Jésus est venu accomplir cela, et c'était ça le sens profond où les choses allaient tout à coup être nouvelles, parce que au lieu d'être une Pâque, je dirais, où on mangeait l'agneau pascal et on rappelait la libération d'Égypte, Jésus est venu s'offrir dans le repas pascal, dans la sainte scène qu'il est venu accomplir, pour notre libération, non pas seulement d'un pays, l'Égypte, où on serait prisonnier, mais beaucoup plus, être libérés du péché qui nous entrave dans notre retour vers la Jérusalem céleste. On comprend que Pâques a été complètement dépassé dans sa signification originelle. Il y a vraiment eu rupture par rapport à la Pâque juive. Et pareil, dans le don de la Torah fait à Shavuot, Jésus est venu promettre le paraclet, une personne de la Trinité. C'est énorme. Hein? Lui-même était cette personne de la Trinité qui a pris sa dimension au moment de Soukhot. Il est venu non pas nous inviter à vivre sous des tentes, mais lui-même a pris chair au milieu de nous, deuxième personne de la Trinité. Donc il y a une révélation trinitaire qui est faite à travers la transformation de ces trois fêtes qui sont accomplies, mais en même temps dans un sens d'un dépassement extraordinaire où c'est finalement le mystère trinitaire qui se révèle en profondeur, puisqu'il est dit en Jean 1, 14 à propos du Verbe de Dieu, et le Verbe s'est fait chair et il a dressé sa tente parmi nous et il a habité parmi nous. Et eskénosène, qu'utilise l'évangile de Saint Jean, est visiblement un rappel de la fête de Soukhot, c'est-à-dire que la fête de Soukhot n'était plus nécessaire dans l'Église nouvelle. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que je célèbre l'Eucharistie, à chaque fois que je célèbre les sacrements, à chaque fois que je lis le Nouveau Testament, Jésus est présent au milieu de nous. Donc Soukhot, c'est tout le temps. Mmh. Alors que Pessah, il faut quand même rappeler que la Pâque nouvelle, il y a eu vraiment un moment historique de la mort, la passion de Jésus à Jérusalem et sa résurrection. Et pour le don de la Pentecôte, eh bien, il y a eu un moment spécial où l'Église s'est en quelque sorte constituée charismatiquement derrière les apôtres avec ce don du Saint-Esprit. Il faut bien le rappeler d'une manière précise. Et cela montre mieux la continuité, je dirais, la fête de Pâques et la fête de Shavuot, l'Église le vit dans une plus grande continuité, même s'il y a une dimension très nouvelle. En même temps, Soukhot, il y a vraiment une rupture, c'est-à-dire que la Pâque chrétienne est d'une nature très différente de la Pâque juive, puisqu'on concentre vraiment sur la spiritualité. Alors, la loi est bonne en tout, comme dit Saint Paul dans ses épîtres dogmatiques, la loi est bonne en tout, mais la loi était donnée initialement pour demander la grâce. Et la grâce, elle, est donnée pour accomplir la loi. Et ça, c'est important, c'est Saint Augustin qui le dit admirablement, et ce sera repris par Jean-Paul II dans Veritatis Splendor. Et c'est important de comprendre la finalité de la loi. La loi n'était pas faite pour être en règle, pour appliquer, comme dans un État, il faut être en règle, ne pas avoir de contravention, ne pas avoir bien payé l'impôt, ne pas se faire prendre par ce qui est contraire à la loi, par des excursus en dehors de la loi. Il faut suivre la loi, mais parce que c'est un chemin de vie, c'est un chemin de victoire par rapport au mal. Si j'oublie le sens de la loi, alors je tombe dans une espèce de morale d'obligation. Or, tout ce qu'est venu apporter Jésus par rapport à la loi ancienne, c'est de dire oui, la loi c'est bien, mais parce que c'est pour nous conduire à la vie et nous conduire au fruit de la vie qui est le bonheur, non pas par une sorte d'intéressement, hein, le bonheur n'est pas regardé comme quelque chose d'intéressé, mais comme un fruit naturel de celui qui marche sur le chemin de la vie. D'ailleurs, le Deutéronome le disait déjà, choisis la vie et ne choisis pas la mort, choisis le bonheur, ne choisis pas le malheur. Donc il y avait vraiment cet enjeu dans la loi qui était bien inscrit, mais que petit à petit, à force de rajouter, je dirais, des arguments, à force de rajouter des lois successives, on a fini par l'oublier un petit peu. Et on sent bien dans toutes les communautés religieuses où il y a une loi à suivre, on peut rencontrer des personnes très à cheval sur la loi, pour la loi, parce qu'on se fait défenseur de la loi pour la loi, mais on oublie souvent à ce moment-là la finalité de la loi. La loi est pour aller vers la vie divine, pour plus de vie divine, et finalement pour le véritable bonheur qui est la béatitude. Donc quand la loi reprend sa signification, nous ne sommes pas contre la loi, nous sommes au contraire dans une morale de la loi, mais parce que c'est aussi une morale de bonheur. Et on n'oppose pas la loi et le bonheur, au contraire, on les associe. Et le temple était le lieu par excellence de manifester ce désir d'être en communion avec Dieu. Tous les types de sacrifices qui s'y passaient étaient à chaque fois une façon d'être, de se remettre dans l'axe de cet appel d'aller à Dieu. Les sacrifices dits propitiatoires, c'était rendre propice Dieu par les sacrifices qui se faisaient. Les holocaustes, où on brûlait tout, on montrait la gratuité de tout ce qu'on avait trouvé, on ne voulait rien garder pour soi, on rappelait que Dieu avait pourvu et il fallait sacrifier dans un holocauste le premier-né ou le racheter, c'est-à-dire offrir une tête de petit ou de gros bétail à la place de chaque premier enfant, premier garçon né. On rappelait ce besoin de dire « mais tout nous est donné, je ne peux rien garder si Dieu ne me le redonne pas ». Et Abraham, lorsqu'il avait voulu sacrifier Isaac, un bélier avait été donné en substitution qui avait aidé à comprendre comment vivre l'esprit de ces sacrifices. C'est-à-dire, je donne tout au Seigneur, y compris mon fils bien-aimé, mais Dieu me le rend d'une certaine manière à travers un sacrifice. Et puis il y avait les sacrifices pour le péché, où on pouvait déjà se purifier au cours de l'année, sans compter bien sûr la grande fête de Kippour qui était avant Shavuot, avant Soukhot, pour où là, dans ce moment-là, on redonnait la vérité, à cette expiation nécessaire pour être en communion avec Dieu.
Merci frère Édouard, c'est remarquable cette lecture des fêtes du temple et de cette relation à la loi.
Merci.